Enfin, on se demande parfois de quoi il se mêle. Car en plus de vouloir nous faire faire des petits, il voulait aussi, quelques mois après, qu'on souscrive tout à l'emprunt de la victoire. Avec le maire et le notaire, c'était à croire qu'il travaillait pour les banques. Parce que, à les entendre, ces beaux parleurs, il paraît que c'est mon devoir de bonne française de donner notre or. D'abord, il faudra en avoir beaucoup plus pour ça. Et même si c'était le cas, ce n'est pas moi qui irais changer nos louis contre des billets, même avec leur promesse d'un rapport de 5% net d'impôts. L'or, c'est l'or, et le papier, c'est rien. Elle se souvenait très bien de la visite que lui avait faite l'abbé Martin un an plus tôt, au moment du premier emprunt de la guerre. Par malchance pour lui, il était passé aux Combettes 2 jours après que le maire et le notaire, rencontrés ensemble à Costeblanc, avaient déjà tenté de la convaincre de souscrire.
C'est un devoir de citoyenne, avait dit Victor Delbos.
Monsieur le maire a raison, avait renchéri Monsieur Breuillet. Tout le monde doit mettre la main à la poche. C'est grâce à cela que nous aurons une proche et belle victoire.
C'est votre devoir de bonne chrétienne,
avait essayé l'abbé Martin. Les deux premiers s'étaient vertement fait remettre à leur place.
Alors comme ça, en plus d'être privée de mon mari, il faudrait aussi que je donne les quelques sous que j'ai et qui sont autant à lui qu'à moi? Jean, lui, il paie de sa peau tous les jours et ça suffit. Alors, pas la peine de me parler de devoir. Jean, à lui tout seul, le fait pour toute la famille.
Le troisième n'avait pas été mieux reçu.
Dites, monsieur le curé, non seulement vous voulez me faire faire des bébés alors que mon homme est au front, mais il faudrait en plus qu'on perde le peu qu'on a? Donnez vos sous, vous, si vous en avez. Et plutôt que venir me faire la leçon, allez la faire à votre évêque. Je suis sûr qu'il a plus de louis que je n'en aurais jamais, même si je travaillais 200 ans. Pauvre curé,
songea-t-elle.
depuis, il n'a plus jamais osé revenir aux Combettes. Mais quand même, passe encore pour les emprunts de guerre. Mais vouloir nous faire faire des enfants. Ah oui! L'amour, tant qu'il voudra, avec Jean, et aussi souvent que possible. Mais pas d'autres petits que Louise et Albert. Jamais. D'ailleurs, même si Jean avait voulu leur donner un frère ou une sœur pendant ses permissions, c'est moi qui l'aurais refusé. Et que Dieu me juge s'il veut, mais que ni lui, ni personne ne compte sur moi pour mettre au monde un petit qui se fera tuer à la guerre dans 30 ou 40 ans, et même peut-être avant. Les hommes sont tellement fous. Et si c'était une fille, je ne veux pas que, chaque soir, elle retarde l'heure de se mettre au lit, parce que celui-ci est vide de son homme. Je ne veux pas qu'elle se rende malade à attendre des nouvelles qui, peut-être, ne viendront plus jamais. Je ne veux pas qu'elle tremble à chaque instant dans la crainte de la visite du maire, de ce pauvre vieil homme qu'elle voit à peine tant son regard est horrifié en découvrant le télégramme qu'il tient à la main, et qu'il n'a même pas besoin de lui donner pour qu'elle sache. Je ne veux pas qu'elle soit veuve à l'âge que j'ai aujourd'hui. Je ne veux pas qu'elle ait à mentir à ses enfants comme je le fais avec Louise et Albert en leur disant chaque jour que leur père va rentrer bientôt, que la guerre est presque finie, que tout va très bien et que toutes les femmes qu'ils voient maintenant en noir au village ou ailleurs le sont par coquetterie et pour être à la mode de Paris. Bien sûr, ils ne me croient pas, surtout Louise. Elle est maintenant trop grande pour ne pas tout comprendre et pour gober ce que je leur dis pour les rassurer, pour me rassurer. Même Albert fait semblant de me croire pour me faire plaisir. Oui, tous les deux font semblant. Parce que quoi que je fasse pour faire bonne figure, ils savent que je tremble de peur. Ça voit tout, les enfants de guerre. Ça devine tout. Ça devient vieux avant l'âge. Ils ne sont dupes de rien. Même si je fais tout pour leur faire croire que tout va bien. Mais j'ai tout de suite remarqué, lors de la première permission de Jean, qu'ils ne l'avaient pas reconnu, qu'ils en avaient presque peur. J'ai vu, et Jean aussi, qu'ils n'osaient sauter au cou de cet étranger qu'il était devenu. Car ce n'était pas de ce père qu'ils gardaient souvenir, ce n'était pas lui qu'ils attendaient, et qu'ils ne retrouveront plus. Et je maudis tous ceux qui, depuis 27 mois et demi, les privent de leur père et les rendent aussi durs et beaucoup trop sérieux et vigilants pour leur âge. Rien ne leur échappe maintenant, ils comprennent tout. Ils ont bien vu à quel point j'étais heureuse lors de la dernière permission de Jean, celle d'août, déjà plus de 4 mois. Et ils s'aperçoivent aussi que depuis, chaque jour m'est un calvaire. La preuve, à cette heure, je devrais dormir depuis longtemps. Pourtant, Je suis là à attendre que la fatigue me terrasse et me fasse oublier pendant une poignée d'heures qu'il y a 871 jours que Jean est parti et que j'en deviens folle. Folle, oui. Et comment serait-il autrement puisque tout s'en mêle, tout s'accélère pour me pousser à bout. D'abord, la dernière lettre de Jean me prévenant qu'il ne sera pas là pour Noël. Ça aurait été trop beau. Oh, vu les circonstances, on n'aurait pu dire à personne de venir pour la veillée. Qui inviter, d'ailleurs? Juste des femmes aussi rongées de peur que moi, ou pire, perdues de douleur parce que veuves. Mais quand même, les enfants et moi, on se faisait une telle joie à l'idée de le revoir. Il aurait dû arriver après-demain. Au lieu de ça, il est je ne sais où et je ne sais quand on le reverra. Et encore, pourvu que les autres, tous ces généraux dont parle le journal, n'aient pas une nouvelle fois l'idée de ne donner qu'une permission par an. Ils en sont bien capables. La preuve, ils parlent maintenant d'appeler bientôt la classe 19, d'envoyer au front des jeunes qui auront tout juste 17 ans. Ils sont capables de tout, même de nous remettre les réquisitions sur les bêtes, comme il y a 2 ans. Le maire a beau dire que c'est un... Comment il appelle ça déjà? Ah oui, un canard, une fausse nouvelle, quoi. Un mensonge lancé par on ne sait qui pour décourager les civils, comme si on avait besoin de ça. Et puis, qu'est-ce qu'il en sait, ce pauvre homme? Pas plus que nous. Moi, ce que j'ai entendu l'autre mardi au marché à Brive, c'est qu'il y avait déjà des margoulins qui passaient de ferme en ferme pour nous voler nos vaches, comme en novembre 14. Et à l'époque, ce n'était pas une blague. Ah, les voyous!
Se souvint-elle en serrant les dents de colère.
Mais bien sûr, s'ils reviennent, cette fois, je les tue. Et tant pis si on me guillotine pour ça. J'aurais au moins débarrassé la terre de ces escrocs, ces profiteurs, ces voleurs, ces embusqués qui s'engraissent pendant que Jean et tous les autres risquent leur vie pour rien. Sûr, s'ils osent revenir, je les tue. Je le leur ai promis et je tiendrai parole.
Et de revivre cette scène la fit frissonner. Il était encore très tôt lorsqu'ils étaient arrivés en ce matin de novembre 14. Le jour pointait à peine et Marthe, déjà au travail dans l'étable, était en train d'affourager les bêtes pendant qu'Octavie nourrissait la truie et les brebis. Ils avaient arrêté leur tilbury au centre de la cour, au pied du gros tilleul. Puis, après avoir mis une musette d'avoine sous le nez du cheval, un magnifique et solide bai, ils étaient venus droit à l'étable, attirés par la faible lueur de la lampe à pétrole. Marthe, qui avait tout de suite compris, les revoyait encore entrant dans le bâtiment comme en terrain conquis. Deux hommes, un petit maigre comme un pivert, mal bâti, pâle, avec une tête de musaraigne, et dont les yeux sans cesse en mouvement estimaient déjà les 4 vaches. Et un autre, plus grand et bien fait, dont l'arête du nez était affublée d'une paire de lorgnons au verre épais comme des culs de bouteille. Aucun n'avait plus de 40 ans, et elle s'était étonnée qu'ils ne fussent point sous les drapeaux. Puis elle avait remarqué que la main gauche du plus grand, sans doute suite à quelque maladie d'enfance, était recroquevillée sur elle-même, comme les serres d'une buse sur un lapereau. Quant à l'autre, le petit, il claudiquait un peu.
« Vous êtes bien, Madame Laval, Jean Laval de la ferme des Combettes ?»
avait demandé le plus grand en compulsant les papiers qu'il venait de sortir de sa serviette.
« Oui ?»«
On vient pour les réquisitions. Vous êtes au courant ?»«
Oui, le maire m'a prévenu. »«
Très bien, alors on va s'entendre !»
avait dit le petit en boitillant derrière les bêtes, mais en restant à prudente distance de la litière pour ne pas salir ses belles bottes de cuir blond. Puis, après avoir lancé un discret coup d'œil à son compagnon, il avait décidé, tout en désignant la gaillarde et la mignonne,
« Celle-là et celle-là »
C'étaient les 2 limousines, 2 fortes et solides bêtes bien dressées pour le joug, donc indispensables. Sans elles, il devenait impossible de travailler les terres.
« Vous êtes fou ! »
avait grondé Marthe en s'interposant aussitôt entre les vaches et le petit mercanti et en relevant sa fourche. Il avait déjà sorti ses ciseaux pour marquer les bêtes,